Tast de llibres a Punt Set Ràdio. Hola, bona nit. A continuació podreu seguir el Tast de llibres que es va realitzar el dissabte 26 d'abril a la tarda. En aquesta ocasió es va parlar del llibre Petit Musée de l'Horizontal, que va comptar amb la participació del seu autor, l'escriptor francès Michel Buteau, i de Martí Pey, encarregat de les il·lustracions de l'obra. També hi va participar el músic Xavier de Palau. A part de les explicacions dels autors del llibre, els assistents al Tast de llibres van poder veure la pel·lícula Butor Pey.
Bona tarda a tothom. Gràcies per haver vingut. Bonsoir, Michel Buteau. Tenim avui dos tats de llibres dels que organitzem la Biblioteca de Sant Celoni, la Regidoria de Cultura. I avui en tenim un ben especial i ben entranyable. Amb dos. Jo els mirava i són dos nens grans jugant molt seriosament com juguen els nens. Bé, agraïm la presència de Michel Buteau, agraïm a Martí Pey per la insistència en fer coses i en fer-nos partícips. I només us explico com anirà l'acte. De seguida passaré la paraula a la regidora de Cultura, Julia de la Encarnación. Després parlaran en Martí i en Michel. I després en Xavier de Palau, que presentem una obra musical que forma part també de la pel·lícula, de la petita pel·lícula que narra, que explica, que ens mostra aquesta col·laboració que tenen Michel i Martí. Aquí també teniu una exposició de les obres que han realitzat junts i algunes de les quals estan en venda. Després veurem la pel·lícula i mentre es fan les signatures i podem tranquil·lament veure aquestes obres, sentirem de fons la música de Xavier de Palau. Gràcies a tots per haver vingut. Júlia. Perdó. Un instant, una cosa que se m'oblidava. Fem gravació per la ràdio d'aquest acte per passar-lo en diferit. Qualsevol persona que vulgui connectar-se a la web de la ràdio poder escoltar-lo. Per això, qualsevol de vostès que vulguin dir alguna cosa, fer alguna pregunta, si us plau, és indispensable utilitzar aquest micro. Esperin que arribi a les seves mans i llavors podem parlar. Gràcies.
Bé, molt bona tarda a tothom i benvingut. Fa ja uns mesos que Martí Pey ens va venir a veure a la Rectoria Vella, on tenim l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Sant Celoni, i ens va parlar de la possibilitat i de l'oportunitat de tenir aquí a Sant Celoni l'escriptor francès Michel Buteau, al que l'uneix una llarga i profitosa amistat, com després tots podrem veure. En Martí ens ho va explicar amb aquella il·lusió que ell sempre sap transmetre quan ve a la rectoria a proposar-nos fer alguna activitat aquí al municipi, i nosaltres el vam escoltar també amb molta il·lusió, conscients del luxe que suposa tenir avui aquí entre nosaltres un autor que, entre altres reconeixements, té el Gran Premi de Literatura de l'Acadèmia Francesa pel conjunt de la seva obra. Aquesta setmana, quan conjuntament amb els tècnics de la biblioteca i la directora de l'àrea de cultura parlaven de la preparació d'aquest acte d'avui, tots coincidien en l'oportunitat magnífica que suposa tenir el Michel Buteau aquí a Sant Celoni, i també la sort que tenim de poder comptar amb artistes com en Martí Pey, que estan sempre està disposat a programar i a realitzar activitats de gran qualitat també aquí en el seu entorn més proper, en l'entorn de Sant Celoni. Així que moltíssimes gràcies, Martí, per donar-nos aquesta oportunitat avui. Moltes gràcies també al Michel Buteau per fer-nos l'honor de venir aquí a Sant Celoni, al nostre municipi. Jo, com a regidora de Cultura, per mi és un honor poder presentar aquest acte, i ara baixaré perquè vull també tenir l'honor de, com a ciutadana, poder gaudir de l'acte d'avui. Moltíssimes gràcies.
Je vais, Michel.
Ça marche ou ça marche pas ou...
Si, ça marche.
Ça marche, oui. Non, ça marche pas. Bon,
alors si, bon, voilà.
Voilà.
Michel, je vous préviens, donc, comme c'est mon tour, je vais vous serrer les pompes.
Bon.
Je dis, la doularai une miquette, parce que c'est normal, non? Ce que je vais faire, je vais parler en catalan, mais éventuellement, donc, il y aura une traduction simultanée.
D'accord.
D'accord, donc on fait comme ça, voilà. El que vull dir és que, bé, aquí el veieu, és una figura mundial. Alguns, la majoria dels seus dels periodistes francesos diuen que és el cèlebre desconegut. És un geni, però que ningú el coneix bueno, cada vegada el coneixen més, és a dir, la seva trajectòria, perquè és una persona que com a professor de llengua francesa ha ensenyat a una multitud, jo diria, de països del món. És un gran viatger i és un home que assimila les cultures amb molt de gust. Va començar fent novel·la, es van acollir al celebre moviment del Nouveau Roman en els anys 50. Ha escrit 4 novel·les, va deixar d'escriure novel·les, ha escrit més de 200 llibres de trobades, jo diria, és a dir, de relacions amb persones, i una part importantíssima de la seva obra és que es va dedicar als artistes, i amb els artistes ha escrit pràcticament 2.400 llibres, dels quals jo tinc el plaer d'haver col·laborat amb ell. A darrere en teniu uns quants, i després els podreu veure. Em sembla que n'hem fet 18 o 19, de moment, perquè això continua. El que és un plaer, perquè amb la seva celebritat, que tothom el reclama d'arreu del món, és una persona que té una bonomia extraordinària i amb el que és molt fàcil col·laborar. I com diu ell, diu, sí, a vegades hi ha editorials que em demanen de col·laborar amb un artista que jo no conec, i si no el conec no em sento gaire còmode, perquè jo prefereixo treballar amb gent que jo conec. És a dir, quan ens vam conèixer, ara fa, hem calculat que 32 anys, doncs a partir d'aquí ja va néixer una col·laboració molt interessant. I evidentment el que es tracta és de que no solament hi ha aquesta relació, diguem, entre artista i escriptor, sinó que som amics, és a dir, que de manera que hi ha un respecte mutu. I ahir va dir una cosa molt maca, perquè evidentment ha treballat amb artistes que tenen una reputació mundial també. Per exemple, us poso un cas d'un català, perquè que tothom sàpiga qui és, el Miquel Barceló, per exemple, que ha fet un parell d'obres amb ell. I un periodista ahir li va preguntar, hi ha una sensació, hi ha una escala, i va dir, no, diu, per mi, encara que sigui molt cèlebre, molt conegut, per mi tots són iguals. O sigui, que això vol dir de quina manera ell s'introdueix i vol treballar amb els artistes. Després, si voleu, doncs, us podreu fer unes quantes preguntes amb ell, jo us les traduiré, si voleu, i tot plegat. I ara anem per parlar... Me'n dones un del llibre, sisplau? Ara anem per parlar de l'obra que presentem avui. Això se'n diu, aquesta obra que tenim aquí davant, se'n diu Petit Museu de l'Horitzontal. Feia anys que amb el Michel fèiem broma i dèiem que un dia o altre tindríem que fer l'elogi de l'horitzontal, és a dir, perquè és aquella posició que una hora o altra del dia, a lo millor dues vegades si és possible, ens agrada estirar-nos per poder-nos relaxar i pensar. I aquesta broma que anàvem dient l'any passat, o fa una miqueta més abans, van dir, Michel, ara és el moment de fer aquesta obra. Jo li vaig enviar una sèrie de dibuixos, 70 per ser exactes, i li vaig dir, tria, remena, fes el que vulguis, elimina, etc. Però se'ls va quedar tots. I aleshores, després, em va dir, saps què, Martí, en comptes de posar el nom d'elogi de l'horitzontal, li direm Petit Museu de l'Horitzontal. Perquè ell se'n va adonar que en la gran majoria dels dibuixos que hi ha a dintre estan basats en pintures que corresponen a la història de l'art mundial. I aleshores ell el que va fer és seleccionar-ho de tal manera que ens ho va presentar en 4 galeries: l'Antiguitat, el Renaixement, Clàssic i Modern. I enmig hi ha un preludi, una misgueule, bueno, una diversió, un interludi, un aperitiu i un postludi. O sigui que hi ha totes les... I aleshores, aquí teniu el llibre, agafo una pàgina a l'atzar, bueno, el que sigui, i el que sí que us puc explicar és que, és a dir, hi ha un text, ell va escriure un títol, va posar un títol i va posar una... Ja el volem després, va. I un text. Aquest text i aquest títol, pels que tingueu una miqueta arrovellat el francès, a darrere, perquè vam decidir que no ho podíem posar davant, no s'hi volia posar davant, hi ha la clau. És a dir, que si hi ha una pintura de la història de l'art que no reconeixeu, el trobareu a darrere la fitxa exactament d'on està, etc., el museu, com es titula i tota la història. pels que realment encara tingueu una miqueta més rovellat, ja per no fer una tradició, el que hem fet ni traduir, hem posat una separata amb la traducció dels textos i del pròleg, perquè el pròleg, si m'ho permeteu, em va fer una jugada, no sé si li perdoneu un dia o altre, perquè en realitat va escriure els textos però no em va tornar els dibuixos. I aleshores la Fina i jo vam tenir un problema perquè tenim que encaixar a veure aquest text on va, però al final em sembla que ens en vam sortir prou bé. Bé, doncs aquest llibre, si voleu, està a la vostra disposició, i a més em sembla que ja ho heu vist una miqueta, si hi ha algú que el vulgui li dedicarem amb molt de gust. A més, doncs, com ja us he dit, després a darrere vostra teniu una... no hi són totes les obres, però la gran majoria de les que hem fet amb el Michel des de fa 30 i pico d'anys. A més, després d'aquesta, encara continuem, encara seguim, i n'hem fet dues més. I una és, se'n diu, sobre l'astor japonès, traduït al català, és a dir, que aquesta, hem fet una trentena d'exemplars, n'hem fet 7 en català, traduïts, evidentment, i 7 més, i 20 i pico, doncs, en francès. Aquesta obra ha estat complimentada, a més, amb la música de Xavier de Palau. Tinc el gust de presentar-vos aquí. Ha fet una meravella de música que dura 11 minuts i que després de veure la pel·lícula, mentre us podeu contemplar les obres que teniu allà darrere, tindreu el plaer de sentir-la, perquè és una autèntica meravella. I a més, Jacques de Savigny, que és el realitzador de la pel·lícula sobre la gènesis d'aquesta obra, l'ha introduït en la pel·lícula, de manera que una part de la música del Xavier està incorporada en la pel·lícula. Em sembla que ja plego, no? Ça va?
Ça va, oui.
Je presque que tu dis, no? Bueno, el que vull dir és que després l'obra, doncs aquesta obra, la triple col·laboració està allà darrere. Hem emmarcat unes quantes làmines, doncs, de les que hi ha a l'interior, però de totes maneres podeu obrir tranquil·lament el llibre i us el podeu contemplar de totes maneres. I encara hi ha una altra obra. Aquesta és una mica de més delicada, en el sentit de que és molt senzill. Les col·laboracions amb el Michel es fan de dues vies. És a dir, jo puc agafar un text, un poema, que ell ha publicat fa molts anys o fa poc temps, i jo li faig una interpretació, i com diu ell, diu, oh, va la mar de bé, perquè l'única cosa que tinc que fer és signar, però moltes vegades el faig treballar, encara que digui que no, el faig treballar. I aleshores sóc jo que li proposo i dic, Michel, m'has d'escriure un text perquè jo vull fer tal cosa. O sigui que va d'un costat i d'un altre. O jo agafo, doncs, com per exemple aquell que jo tinc a darrere, que estic veient, que és sobre el pont dels sospirs de Venècia, que era un text que ell havia escrit i havia incorporat unes imatges, però en canvi el del Japó vaig ser jo que li vaig demanar que escrivís aquest text. Com que el Michel i jo ens agrada molt el Japó, ja de les 19 obres que hem fet junts, n'hi ha 3 que versen sobre el Japó, i a la millor encara en farem una altra. I l'última, la més recent de totes, com us he començat a dir, és un poema que ell va escriure fa més de 30 anys i que literalment se'n diu La balada del sexe femení. I quan dic el sexe, vull referir-me exactament al sexe. Aleshores, és un poema que és tan meravellós, és tan extraordinari com l'ha escrit, amb les metàfores que fa referència a aquesta part del cos de la dona, que deia, un dia o altre tinc que fer alguna cosa. Jo conec dones que han llegit el poema i han dit que és un text extraordinari, però no acabava de trobar el sistema de traduir amb imatges aquest poema tan maco. I finalment, doncs, li vaig dir, Michel, em sembla que he trobat la solució, i la solució la veureu després, i al Michel li ha agradat, perquè em deia, ah sí, ho has aconseguit, i com tu has fet. Bé, ara sí que ja ho deixo. Xavier, ens pots presentar, o ens pots parlar de la música, per favor?
Breument, perquè tenir un monstre de la llengua francesa al meu cantó, doncs, evidentment, el seu do és la paraula, no el meu. fa pocs mesos vaig estar aquí a Sant Celoni, els que vau venir a la presentació del 10 anys de l'aniversari de la mort de Miquel Martí Pol, l'homenatge que li van fer, i només acabat el concert Martí me va proposar posar música a un treball que estàvem fent sobre el Japó, sobre la música japonesa. Evidentment, tot això era un repte per mi, perquè jo vinc d'un altre món musical, però a la vegada bastant diferent del que convencionalment se coneix en música, que jo he treballat en els últims anys justament en música algorísmica, matemàtiques, biologia musical i coses d'aquest tipus, però com que crec molt en la transversalitat del coneixement humà i la cultura, vaig trobar molt interessant doncs, entrar de ple en la poesia. I a partir d'aquí doncs, en Martí me va proposar posar música en aquest treball sobre el Japó. Evidentment, la cultura japonesa me queda una mica distant i no havia treballat en el tema, però com que els reptes m'agraden molt, doncs efectivament vaig acceptar de seguida. Però la qüestió era una mica complicada per mi, perquè es tractava de posar ell les imatges, d'unes imatges d'una fotografia que tenia que havia fet Michel estant al Japó, i a la vegada d'uns poemes que jo encara no havia vist, que Michel escrivia sobre aquest mateix projecte, però això a la vegada basat en un japonès, en Tanizaki, que havia escrit un assaig molt bonic sobre l'ombra. De tot això havia de fer un treball, per tant era bastant complicat per mi en aquell moment. A mica vaig entrar en el tema i el primer que vaig fer va ser llegir-me tota l'obra de Michel, no perquè és immensa, però sí, impossible, però sí de l'assaig d'en Tanizaki. Sí que me vaig assabentar de qui era Michel i de la seva obra i del que en general, i llegiu algunes de les obres seves i poemes per saber amb qui estava treballant. Vaig veure un monstre que era, per tant, molt de respecte amb això. I aleshores doncs, la música aquesta em vaig basar després en una escena que, de l'assaig d'en Tanizaki, de l'Elogi i l'Ombra, on fa una descripció per mi magnífica del que és la concepció de la llum al Japó, dels japonesos, que contràriament al mica el que tenim aquí a la nostra cultura cristiana catòlica, on el bé i el mal, la llum, l'ombra, aquest contrast, ell feia tota una reflexió sobre l'ombra, que és una zona on hi ha color, hi ha vida, hi ha unes figures que van apareixent en aquesta ombra. De tot això va ser la xispa que me va inspirar per fer aquesta música, que evidentment jo no vaig voler entrar en estil japonès perquè no és el meu món i ni que faria seria el ridícul, sinó simplement un occidental que contempla tota aquesta obra, aquesta arquitectura japonesa i aquesta manera de pensar i com ho sentiria jo. No? Per tant, l'obra aquesta comença amb una obertura, si voleu dir-ho així, molt occidental, que seria una persona que entra en una casa japonesa, i a partir d'aquí va apareixent música molt cristallina, molt brillant, que seria aquesta interpretació d'aquesta brillantor, d'aquestes formes que van brollant en aquesta ombra, la part intermitja, i acaba com hem començat, evidentment, tot aquest procés. Per mi va ser un repte, ja dic, intentar expressar d'alguna manera tota aquesta forma d'això que em volíeu dir. Crec que el treball ha quedat molt bonic, però veient amb qui estava treballant, doncs raó de més d'intentar posar el màxim del meu interès. Moltes gràcies a tots per venir aquí i per donar-me l'oportunitat d'escoltar la meva música. Moltes gràcies.
Votre tour, Michel.
Oui, eh bien, à votre santé.
Le whisky, c'est pour plus tard. Hein?
Pour plus tard, oui. Alors, je suis très heureux de me trouver ici, dans cet endroit que je ne connaissais pas, cette partie de la Catalogne que je ne connaissais pas du tout.
Oh, attention.
Ah, je connais.
Vous êtes venu quand même à Campins en 84.
Ah oui, mais pas ici.
Ah, pas ici.
Oui. Et alors, je suis très heureux de me trouver en compagnie de Marty, bien sûr, et puis de notre ami musicien. J'aime beaucoup la musique. J'ai beaucoup travaillé avec des musiciens. Et j'ai écouté le disque qui est inclus dans notre ouvrage sur l'écran japonais. Et je suis très heureux de ce disque. C'est très difficile de parler d'un pays étranger en musique. Et pourtant, c'est quelque chose qui a toujours été une fascination des musiciens. Dans la musique de l'époque baroque, les musiciens ont aimé se promener dans différents pays autour d'eux à cause de leur musique. Par exemple, musiciens font des suites de danses à cette époque-là, et ces danses sont souvent très liées à des pays précis. Et par exemple, on a une danse qui s'appelle une allemande, qui est allemande, une gavotte ou un menuet, ça c'est la musique française, ou bien une gigue, ça c'est la musique écossaise, etc. Et les musiciens de l'époque 1900 ont aussi été passionnés par le voyage en musique. Debussy, par exemple, nous promène dans de nombreux endroits différents. Alors, aujourd'hui, là, nous avons une promenade dans un Japon particulier, parce que c'est un Japon qui est traduit par un artiste, une photographe, un écrivain, qui donne une vision de ce pays à travers des yeux occidentaux et évidemment de la musique de ce pays à travers des oreilles occidentales. Voilà, alors je trouve que c'est très réussi et j'espère que vous aurez plaisir à entendre cette musique, que vous allez entendre d'ailleurs, en partie au moins dans le film.
Oui.
Oui. Et puis, à d'autres occasions, naturellement. Donc, merci pour votre musique. Et je dis merci à tous les musiciens. Parce que sans musique, nous aurions beaucoup de mal à survivre. Voilà. Alors, tu traduis ?
Bon.
Non ?
Je traduis, mais je pense que c'est pas la peine.
C'est pas la peine, bon.
Je pense que tout le monde a compris ce que vous
dites. Ah ben alors, ça va.
Ou presque, bon, voyons. Bon. Est-ce que vous voulez dire quelques mots à propos de l'horizontale ?
Alors, à propos
de l'horizontale que vous avez eue comme moi cet après-midi ?
Ah oui, oui. Ah, mais, j'ai beaucoup vécu à l'horizontale. Évidemment, nous passons une très grande partie de notre vie allongée. Nous passons une grande partie de notre vie à dormir. Et quand nous dormons, quelquefois, nous rêvons. Quelquefois, ça a beaucoup d'importance pour nous. On fait comme si on vivait verticalement. Mais non, on vit au moins un tiers de la journée, quelquefois la moitié de la journée, mais au moins un tiers de la journée, on vit couché. Et les Romains réussissaient même
à manger
couché, ce qui pour moi est tout à fait extraordinaire. Moi je ne pense pas que je réussirais à manger comme un Romain. Enfin, quand on est dans un lit d'hôpital, bien sûr, alors on se débrouille, mais eux c'était bien plus compliqué. Pour eux c'était bien plus compliqué. Bon, alors il m'a proposé de faire un livre avec lui sur le thème de l'horizontale. Je me suis demandé comment il allait pouvoir faire, et il m'a montrer les dessins, je ne sais plus combien il y en a.
70.
Bon, 70 dessins. Et là, j'ai été des dessins humoristiques, et je n'ai pas l'habitude d'écrire des textes sur des peintres humoristiques. Mais il y a des peintres qui ont toujours... Il y a des peintres qui ont de l'humour, hein, ça communique.
Il faut ça.
Oui. Alors,
même des écrivains qui ont de l'humour. Hein.
Quelquefois, oui. Et alors, il m'a apporté ces dessins. J'ai bien vu le fil horizontal qui reliait tout ça. Mais surtout, la plupart de ces dessins, pour moi, ce sont des parodies de dessins d'œuvres classiques, de peintures ou de sculptures antiques, des sculptures étrusques, romaines même. Et donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça le musée de l'horizontale. Mais c'est très... J'aime beaucoup visiter des musées, mais c'est très fatigant. Alors j'ai besoin de repos entre les différentes galeries des musées. C'est pour ça que lorsqu'il n'y avait pas de référence directe à une œuvre connue, eh bien j'ai groupé ces dessins pour faire des repos entre les moments de grande culture classique, de promenade à l'intérieur de l'histoire de l'art. Voilà comment ça s'est passé. Et alors, en arrivant ici, c'était hier, à Barcelone, j'ai appris qu'il avait l'intention de faire un livre sur
la verticale.
Michel,
c'est clair et net, appelez l'horizontale, il faut.
Voilà, et bien alors, donc nous
vous
allons...
Vous avez déjà le sujet de la prochaine œuvre.
Nous allons voir ce qu'il fera, parce que c'est à lui de travailler, et puis ensuite j'essaierai de trouver quelque chose pour aller avec... Pour l'horizontale, ça, c'était pas tellement difficile, parce que nous écrivons horizontalement. Alors... Pour la verticale, ça sera beaucoup plus difficile parce que.
Mais les Japonais écrivent.
Ah, les Japonais, mais je n'écrirai pas en japonais.
Ah non, d'accord.
Voilà. Alors, et après, je lui ai dit, mais après, comme nous nous trouvons en Catalogne, dans le pays de Gaudi, il sera indispensable de faire ensuite une troisième œuvre qui sera sur l'oblique. Parce que dans la Sagrada Familia, les colonnes qui ordinairement sont verticales, eh bien justement là, sont penchées, elles sont obliques. Voilà. Alors, je lui souhaite beaucoup de plaisir.
Bueno, gracias.
Merci, Michel. Merci, Michel. Ara el que farem, doncs, és visionar la pel·lícula. És una pel·lícula que dura 22 minuts escassos, i després, mentre estigueu veient les obres, com hem dit abans, podreu sentir la música del Xavier de Palau. On hi va? On ha fet?
Oui.
Donc, on partirà sur la verticalité, maintenant?
nous verrons, j'attends.
Il faudrà voir... Parce qu'il ne faut pas leur donner les clés, non, quand
même. Ah non, bien sûr que... De toute façon...
Us parlem de verticalitat, però no us direm quina solució tenim, perquè és la metafísica de la verticalitat. Eh? Que n'hem parlat aquest matí, Antonio.
De toute façon, j'attends que Martí treballe.
Ah oui, sí.
Primer moi, je travaillerai après.
Primer toc a mi, eh? Primer toc a mi, sí. No sempre, primer, hi ha vegades que va davant, però bueno, quan em toca a mi, em toca a mi. Va, espero les vostres preguntes. No tothom té una persona com ell aquí cada dia. Si voleu, li pregunteu a quin país del món no ha ensenyat, perquè n'ha ensenyat a tantíssims. No és pas, Michel. Combien de pays vous avez enseigné?
Oh, je ne sais pas.
Ah, mais bon.
J'ai été professeur pendant un certain temps dans... une dizaine de pays au moins.
Au moins.
Et puis j'ai fait des conférences dans...
Partout.
Non, pas partout, non. Dans une trentaine de pays.
Si je ne me trompe pas, il y a 3 ou 4 ans, peut-être un peu plus, vous avez été, c'est même l'État français qui vous a demandé d'aller aux îles pour faire un hommage à Gauguin.
Oui, j'ai eu la chance d'aller... À Tahiti.
Ah ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
Pour.
En représentant l'État français.
Commémoration du peintre Gauguin, oui.
Ah, voilà.
Mais j'ai pas été professeur, là. Hein.
Ça vous manque?
Non. Non, j'étais là pour faire une conférence à l'intérieur d'un ensemble, à l'intérieur d'un colloque, comme on dit. Alors là, je suis allé dans. Donc dans de très nombreux pays pour participer à des conférences, oui. Mais j'ai été professeur d'une façon un peu régulière, voilà, une dizaine de pays, oui.
Si, Jordi.
Vous avez né avec un crayon à la main, un baseball chupete. Quel est votre secret?
Si vous avez né avec...
Le moment de naître, quand vous avez né, votre mère, il a une chupette, non, un crayon ou...
Quoi? Avec la chuchette, si vous aviez déjà un crayon.
Non.
Quel secret?
Non.
Il n'y a pas de secret.
Si j'ai un secret, c'est un secret pour moi aussi.
Ah bon?
Donc... Je ne sais pas, je ne peux pas le dire. Si je le savais, je ne le dirais pas probablement. Mais non, si je le savais, je m'arrangerais pour le. pour le faire savoir. Mais je ne sais pas. Alors, quand j'étais enfant, j'ai appris à lire. Ça m'a passionné d'apprendre à lire. Et quand je me promenais, je lisais tout ce que je pouvais dans la rue. Et donc, pas seulement dans les livres, j'ai beaucoup lu dans les livres, mais aussi je me souviens très bien, quand j'étais petit, je m'efforçais de déchiffrer tout ce qu'il y avait sur les affiches et puis sur les plaques des rues, comme ça. Et des années plus tard, j'ai écrit un essai qui s'appelle « La ville comme texte », où j'essaie de raconter, d'expliquer que la ville elle-même est un grand livre. Que dans une ville, il y a du texte partout, pas seulement à l'intérieur des bibliothèques ou des librairies, mais il y a des quantités d'endroits où il y a du texte. Et que, il y a aussi les archives. Il n'y a pas seulement la bibliothèque, il y a les archives. C'est-à-dire qu'il y a des endroits de la ville où on accumule des quantités de documents, de traités, de contrats, etc. Et au fond, c'est le cœur même de la ville. Alors donc, très, très vite, j'ai été fasciné par l'écriture. Oui, ça c'est sûr. Et puis, quand j'ai été élève, alors je me suis mis à écrire des poèmes. J'ai commencé très vite à écrire des poèmes. Et je me souviens très bien, quand je suis arrivé à Paris au moment de l'occupation allemande, donc pendant l'été 1940, je suis allé dans un lycée. J'avais des professeurs qui étaient plus ou moins bien. J'ai toujours été...
Et la barrière ?
Oui, j'ai toujours été très sévère pour mes professeurs.
Et la barrière, c'était où ça ?
J'ai beaucoup... Quand j'étais professeur, j'avais très peur de rencontrer au fond de la salle un petit enfant comme celui que j'avais été.
Mais à un moment donné, vous avez fait une barrière contre les mauvais... Ah, voilà, c'est ça, oui. Voilà.
Oui, bon. C'est ça. Il y avait des professeurs que j'admirais beaucoup. J'aurais tout fait pour eux. Et puis, il y avait des professeurs que je n'aimais pas.
Non, les gradables.
J'avais l'impression qu'ils me trompaient.
qu'il me
disait des choses qui n'étaient pas justes. Et alors il y avait ce problème, c'était le moment de l'occupation allemande, il y avait des professeurs qui n'étaient pas tout à fait dans la lignée politique que moi, enfant de 13 ans, et donc il y a un professeur que je n'aimais pas d'ailleurs.
Pas du tout.
Mais qui était un professeur d'anglais. Et il a eu la bonne idée de nous faire lire, de nous faire étudier un poème de Shelley qui s'appelle L'Ode au vent d'ouest. Et j'ai trouvé ça formidable. Et à ce moment-là, quand il me disait des choses qui n'étaient pas bien, ou qui ne me plaisaient pas, je m'installais au fond de la classe avec des dictionnaires devant moi. Autrefois,
es feia una barrera de diccionaris perquè sense aïllava i podia seguir escrivint el que volia.
On étudiait le latin et le grec au lycée et on avait d'énormes dictionnaires qu'il fallait transporter. C'était la véritable éducation physique dans l'enseignement français. On faisait un peu de gymnastique, mais très peu. Mais tous les jours, il fallait transporter des kilos de livres. Maintenant, les élèves ont des tablettes. Ils ne se rendent pas compte. Mais alors, ces énormes dictionnaires me servaient de pierre pour construire un rempart.
Una muralla contra el mal ensenyament.
À l'abri de ce rempart, j'écrivais des poèmes.
Ah.
J'ai écrit des quantités de... À ce moment-là, j'ai écrit des poèmes au vent, au vent du nord, au vent du sud, etc. Et j'ai pas gardé du tout tout ça, bien sûr. Et j'ai beaucoup écrit en classe. Et puis j'ai aussi beaucoup écrit à l'université. Mais quand même, là, c'était pas quand j'allais au cours. Parce que à l'université, si un professeur ne m'intéressait pas, j'allais pas au cours. Ça, c'était tout. Voilà. Et donc j'ai beaucoup écrit quand j'étais enfant et adolescent déjà. Et puis j'aimais déjà beaucoup le dessin et la peinture. J'avais eu très envie d'être un peintre. Et puis j'aimais beaucoup la musique.
Il est devenu
envie d'être musicien. Mais entre les deux, je suis tombé dans la littérature. Et c'est pour ça que dans ma littérature, il y a toujours une nostalgie de la musique et une nostalgie de la peinture. Et c'est pourquoi d'ailleurs, j'aime beaucoup travailler avec des peintres et avec des musiciens. Et si je pouvais travailler avec un architecte, ça m'intéresserait.
J'en connais un là, il est là-bas là. Voulez savoir alguna cosa més? Ah.
Oh, je n'ai pas d'écrivain favori. J'ai 100 ou 1000 écrivains favoris. Donc, j'ai beaucoup lu, depuis mon enfance, beaucoup lu, et j'ai toujours lu depuis. Je lis encore beaucoup, et comme j'ai gagné ma vie comme professeur de littérature, j'ai évidemment, à cause de mon métier, j'ai lu et relu de très nombreux écrivains. Il y a des écrivains dont j'ai lu les œuvres complètes, je ne sais pas, 10 fois, et puis pour certains livres, 50 fois, vous voyez, pour pouvoir faire mes cours. Hein. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup lu. Alors, et chaque fois que je lisais, ou que je lis encore, un de ces écrivains, j'essaie de lui arracher ses secrets. Hein. Parler de secrets. Eh bien, moi, oui, j'essaie de savoir pourquoi ils écrivent ça et comment ils font, comment ça fonctionne. Et vous voyez, j'ai une lecture de critique aussi. C'est pour ça que j'ai pu écrire de très nombreux essais sur des écrivains. Et cette lecture est très liée à mon écriture, parce qu'ils m'apprennent des choses. Tout d'un coup, dans un texte, il y a un mot, et puis je me dis, tiens, je n'avais jamais pensé à ce mot-là. Je vais pouvoir peut-être utiliser ce mot-là, ça sera la solution quand je trouverai un problème dans ce que j'ai à écrire. Voilà.
Si c'est un écrivain russe, américain, ou sud-américain, ou africain,
oui. N'importe.
Tout, ça n'importe pas.
Non.
Ah, il y a une chose qui importe beaucoup, c'est que je connais très peu de langues. Donc, il y a une grande différence pour moi entre les écrivains que je peux lire dans leur langue originale, et puis les écrivains que je ne peux lire qu'en traduction. Alors je peux pas lire un écrivain en catalan, par exemple. Il faut que j'attende que quelqu'un me le traduise.
Il y arrivera quand même.
Peut-être que j'y arriverai. Il y a un certain nombre de langues que j'arrive à lire plus ou moins bien. Et puis il y en a d'autres, naturellement, pour lesquelles je dépends absolument des traductions. Par exemple, je ne peux pas lire le russe, je ne peux pas lire le chinois, je ne peux pas lire le japonais. Mais en lisant les traductions, j'essaie de comprendre comment c'est traduit. Et très souvent, quand je lis une traduction, j'ai l'impression qu'elle est mauvaise, que le texte est formidable, mais qu'il y a un endroit où ça ne doit pas être ça. Ceci parce que je l'ai vérifié un très grand nombre de fois avec les langues que je connais un peu. Voilà. Et Mais sinon, que l'écrivain, quelle que soit son origine, la seule chose qui m'importe, c'est qu'il m'apporte quelque chose. Et je dirais, plus il est éloigné géographiquement et culturellement, eh bien, plus je peux en espérer, plus il peut m'apporter de nouveautés.
Hi ha una cosa que ara l'he recordada, un dia em va dir que, no sé, parlàvem de traduccions, justament de traductors, i aquella frase que es diu sempre traduttore, traditore, no? És perquè ho pots trair. I va dir una cosa molt maca, i crec que té tota la raó, perquè diu, es pot ser poeta i no traductor, però per ser traductor has de ser poeta, si no la cosa no funciona de cap de les maneres.
Oui.
L'histoire que vous m'avez dit une fois, que pour, on peut être poète mais pas traducteur, mais pour être traducteur, il faut être poète.
Oui, ça, je pense, pour traduire de la poésie, en tous les cas, il faut être un poète.
Voilà.
Parce que il faut trouver, il faut être capable de trouver dans sa langue ce qui, ce que d'abord on ne pouvait pas dire dans cette langue. Parce que la poésie utilise la langue dans toutes ses particularités. Donc, c'est très difficile de traduire de la poésie. Il faut avoir beaucoup d'imagination pour traduire fidèlement un écrivain, un grand écrivain d'une autre langue. Mais dans certains cas, voilà, il y a un livre que j'ai écrit qui s'appelle Gyroscope et dans lequel j'ai utilisé des poèmes chinois, mais je ne sais pas le chinois. Mais j'ai utilisé plusieurs traductions différentes des mêmes poèmes et des traductions que j'ai utilisées, des traductions françaises et des traductions anglaises. Et à partir de ces traductions différentes, j'ai essayé de reconstituer ce que pouvait être le poème.
D'accord,
original,
ouais.
Vous voyez. Et alors j'ai écrit ma propre, sans savoir la langue, j'ai essayé d'écrire ma propre traduction. Voilà. Alors évidemment c'est certainement très loin du poème véritable, mais pour moi ça a été une recherche tout à fait fascinante. Voilà.
Pardon pour mon français. C'est la première fois que j'ai vu qu'on mélange des peintures et de la lettre. De la lettre de votre poème et de la peinture de Marty Pay. Il, normalement, il pas suivant. Si le problème, c'est une réponse que il est très difficile, mais vous êtes très diplomatique. Qu'est-ce que vous croyez qu'on touche plus les plus hauts pourcentages de les gens? Une peinture que normalement vous pouvez voir 5 minutes dans un musée, qui est toujours un cimetière, ou un poème ou un livre que vous peut-être vous lisez dans un jour, deux jours, trois jours, quatre jours, et vous l'avez à votre maison, toujours. Mais quand vous allez à un grand musée, ils ont de très grandes peintures, ils sont là, ils sont morts. Et ils ne touchent pas comme la littérature ou un poème que vous pouvez dégoûter chaque fois que vous voulez parce qu'être à votre maison. Les deux choses, ils sont artistes. Mais je crois que les poèmes, la littérature, il est plus vivant que la peinture. Et il est plus proche pour votre sentiment, la littérature et les poèmes, que pour voir la peinture que vous le voyez et vous retournez à la maison.
Je crois en effet que la littérature, la poésie a une certaine, bon, a des avantages, mais elle a aussi, elle bute sur ce problème de la langue. Je voudrais pouvoir profiter de tous les poètes du monde, mais je ne peux pas parce que il y a beaucoup de très grands poètes qui n'ont jamais été traduits en français. Et il y en a beaucoup qui ont été traduits, mais à mon avis, certainement très mal. Donc il faudrait qu'un autre réussisse à les traduire, si vous voulez, pour moi. Donc il y a cette grande difficulté de la littérature. C'est la barrière de la langue que l'on franchit avec beaucoup de travail et d'imagination, d'inventivité. Mais je voudrais dire autre chose aussi. En ce qui concerne la peinture, elle est là dans le musée. Mais le texte aussi est là dans la bibliothèque. Et selon la culture que nous avons, nous lisons le texte autrement. D'abord, si nous connaissons la langue, nous pouvons le lire directement. Si nous ne la connaissons pas, nous sommes obligés de passer par des traductions. Mais en ce qui concerne la peinture, la façon dont nous voyons la peinture dépend aussi de la culture que nous avons. C'est-à-dire, il y a des tableaux qu'on ne voit pas la première fois. On voit un tableau, je ne parle même pas de l'art contemporain, là. Je parle de l'art le plus classique. Nous nous promenons dans un musée, il y a un tableau que nous voyons, il ne nous intéresse pas spécialement. Et puis, une autre fois, parce que nous avons vu autre chose, d'autres tableaux du même peintre, par exemple, alors ce tableau nous attire, ce tableau se met à nous parler et nous le regardons d'une façon qui est complètement différente. Alors, l'histoire de l'art est quelque chose qui bouge. De toute façon, le passé est quelque chose qui change pour nous, parce que nous le connaissons plus ou moins bien. J'espère que nous le connaissons de mieux en mieux, mais surtout nous le connaissons autrement. Nous pensons l'histoire autrement. Eh bien, de même, la peinture d'aujourd'hui nous fait voir les œuvres des musées autrement. Quelqu'un comme Picasso a été un extraordinaire ouvreur d'œil. C'est-à-dire, il y a des quantités d'œuvres des musées qui n'intéressaient personne auparavant, qui étaient considérées simplement comme des documents archéologiques. Et puis, à l'aide de certains artistes, on s'est mis à trouver ça beau. On s'est mis à trouver ça extraordinaire. Donc, l'œuvre a profondément changé à cause du travail d'artistes beaucoup plus récents. Alors, chaque fois que je lis un grand texte, je le trouve différent de la fois précédente, parce que j'ai travaillé dessus. Et quand je me promène dans un musée, je trouve toujours des choses nouvelles. Les musées, vous voyez, chaque fois, le musée est nouveau pour moi. Je reconnais de vieux amis, je suis très heureux de les saluer, et même ces vieux amis que j'ai beaucoup regardés, quelquefois, tout d'un coup, je m'aperçois qu'il y a quelque chose que je n'avais pas remarqué dans ce tableau.
C'est bon, ça va.
Il y a le problème de la traduction.
Oui, mais la traduction...
Ça va ?
Du point de vue que je vois toutes les têtes, je pense que la plupart, pour ne pas dire tous, ils ont bien compris ce qui est...
Bon, ben parfait.
Ara, si voleu, mentre pugueu veure les obres que hi ha darrere, del conjunt que hem fet, ara posarem la música del Xavier de Palau, la sentireu, no cal que estigueu en una posició, podeu moure-us i podeu fer el que vulguis, i el Xavier, sentireu la música del Xavier en el fons. Gràcies a tots per haver vingut.
Merci.
Moltes gràcies. Thank you.
Fins aquí el tas de llibres a Punt 7 Ràdio. Us el podreu descarregar del web santsaloni.cat/ràdio a la carta, de l'apartat Programes Especials. Bona nit.